Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro, avec Pierre-Henri, comme tous les lundis.
Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver à nouveau.
Aujourd'hui, au programme, deux sujets. Le procès Marine Le Pen et sa candidature aux élections présidentielles. Et puis deuxième sujet d'actualité aussi, la reprise de la guerre avec l'Iran. Mais pour commencer, Pierre-Henri, cette affaire de procès...
Sujet un peu touffu, dont on a beaucoup parlé depuis...
Mais c'est un peu la surprise, parce que c'est vrai que Marine Le Pen avait annoncé à plusieurs reprises que si on la condamne à de la prison... avec une obligation de porter le bracelet électronique, elle ne serait pas candidate parce qu'elle ne pourrait pas faire campagne, et puis qu'elle ne ferait pas appel, etc., de cette condamnation. Et puis beaucoup d'observateurs avaient misé sur une condamnation qui dépasserait les 2 ans d'inéligibilité. Mmh. Alors on voit bien que. Alors ce n'était pas le cas, bon, rappelons, elle a eu 30 mois, il me semble. Non, 45 mois.
Dont une partie avec sursis, de fait.
Oui, mais en fait, on voit bien que... Alors, on n'arrête pas de nous dire que la justice est indépendante, et elle décide en fonction du dossier, et non pas en fonction... on dit toujours, le temps de la justice est différent du temps médiatique. Oui, je veux bien. Mais enfin, comme par hasard...
Étonnamment. Très étonnamment.
D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Hein. Le juge ne s'en est pas caché. Les juges ne s'en sont pas cachés parce que...
Parce qu'après, il y aura ceux de la cassation qui s'est exprimé depuis.
Oui, mais ils ont condamné pour l'inéligibilité un nombre de mois. D'habitude, c'est par an. C'est un an et demi. Là, ils ont donné un nombre de mois qui correspond exactement à ce qu'elle a déjà fait jusqu'au jour du procès. Je m'explique. C'est-à-dire, la décision a eu lieu le 7 juillet... Et ils ont calculé que depuis la première condamnation en première instance jusqu'au 7 juillet, ça fait 45 mois.
La peine était couverte, en fait.
Ah voilà. Donc ils ont choisi pile poil le nombre de mois qui correspond au 7 juillet pour qu'elle soit éligible. C'est-à-dire, tout ça est calculé. Bon, ils ne s'en cachent pas. Très bien.
Alors ça, c'est une stratégie, parce que ça a été aussi l'une des premières remarques qu'on pouvait se faire de l'extérieur. C'est que ça a été la stratégie qui permettait à Marine Le Pen quand même de se présenter, même s'il ne le savait pas en avant, mais il pouvait se douter qu'elle allait décider de revenir sur sa, non pas sa parole, mais sur ce qu'elle avait dit, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire ne pas se présenter si elle avait du sursis ou une peine sous bracelet électronique.
Pardon, elle avait dit qu'elle se présenterait, enfin,
si elle était libre de faire campagne.
Non, là, ils l'ont libérée, elle est éligible. Donc ça, en fait, il y avait deux sujets. Il y avait l'éligibilité et il y avait l'histoire de la peine, avec ce bracelet ou pas bracelet. Pour l'éligibilité, l'affaire est close. Mais moi, ce que je faisais remarquer, c'est qu'on nous dit qu'on juge non pas en fonction de la vie politique.
Oui, du temps politique.
Donc on lui donne la peine qu'elle mérite.
Bien sûr.
En réalité, on voit bien que c'est pas la peine qu'elle. En fait, c'est au pif, quoi.
C'est évident que c'est
faux. Si c'était à 6 mois, on lui aurait donné 6 mois. Donc finalement, elle ne méritait. On ne sait pas ce qu'elle mérite, c'est n'importe quoi.
Mais pour terminer la question que je voulais vous poser, c'est que c'est quand même une stratégie parmi d'autres qui était possible, stratégie politique, j'entends bien, pour les juges, qui est de laisser à Marine Le Pen la possibilité d'y aller à la présidentielle, c'est-à-dire d'y aller à la place de Bardella. Et c'est un peu quand même un des nœuds de l'affaire, voire le fond de l'affaire. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Moi, j'ai dit à ce micro, il y a 6 mois, à peu près, ou un peu plus, j'avais dit que ils l'ont, en première instance, ils l'avaient condamné durement pour qu'elle ne puisse pas se présenter. La chose à laquelle il ne s'y attendait pas, c'est que celui qui a été désigné comme éventuellement son successeur
cartonne
dans les sondages.
Dans les
ils se sont dit zut, je vulgarise un peu bien sûr.
On s'est tiré une balle dans le pied.
Ah zut, voilà. C'est encore pire. Bon, et donc j'ai parié sur le fait qu'ils vont revenir en arrière, mais on peut pas non plus dire, ils peuvent pas revenir en arrière totalement en disant non, elle est innocente. Et en fait, ils ont essayé de la piéger, parce que comme elle avait dit, je ne me présenterai pas avec un bracelet électronique, ils ont essayé de dire aux Français, regardez, nous on n'empêche rien, elle est libre de se présenter. Après, bracelet électronique, ça c'est son problème. En tout cas, elle peut se présenter. En fait, ils voulaient qu'elle se présente aux élections présidentielles avec un bracelet, parce que ça veut dire la plomber. C'est-à-dire, nous, on n'y est pour rien. Ils font Ponce Pilate, hein, vous savez. Nous, on n'y est pour rien.
S'en lave les mains. Ouais.
Elle se présente. Elle a un bracelet, c'est pas notre problème. Et tu te présentes avec un bracelet aux élections présidentielles, c'est juste infaisable. Bon, je pense qu'elle a retourné le piège en faisant appel. Voilà.
Alors, devant la Cour de cassation. Elle s'est pourvue en cassation. Alors après, il y a la question du délai de réponse de la Cour de cassation, qui s'est prononcée depuis, qui dit que la réponse sera donnée avant le premier tour donc de mai de l'année prochaine, mais ça pourrait être dans 2 mois, comme ça pourrait être en avril 2027. Bon.
Oui, vous savez, alors la Cour de cassation avait dit au départ, pour aller vite, on pourrait faire ça en janvier. Là, ils disent au plus tard en avril. Alors, d'une part, s'il donne une réponse entre février et avril, le bracelet électronique, il ne se met pas en 24 heures. Mm-hmm. Ça prend un certain temps, le juge de liberté doit être convoqué, etc.
Puis on peut demander des aménagements, évidemment.
Alors, il y a peu de chances qu'il lui mette un bracelet. Si jamais la Cour de cassation rejette le pourvoi, il y a peu de chances qu'on lui mette un bracelet électronique avant le premier tour. Très peu de chances. Mais ce que l'on sait moins, c'est que... Moi, je vous parie que la Cour de cassation ne pourra pas donner une réponse en avril. Parce que... D'ailleurs, il l'a sous-entendu, le président de la Cour
de cassation
et ainsi que le procureur, les deux ont parlé. Il l'a sous-entendu plus ou moins. Il a dit, sous réserve de, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, enfin, c'est sous réserve de. Parce qu'en fait, les avocats de Marine Le Pen peuvent, parce que c'est une discussion entre la Cour de cassation et les avocats. Et donc, les avocats peuvent retarder la décision en soulevant d'autres questions, en faisant
d'autres
objections. Et donc, ils peuvent faire traîner ça un peu. Bon, bref, on verra.
N'importe quel divorce au contentieux, ça peut prendre...
des années.
Des années. C'est-à-dire entre 5 et 10 ans, parce qu'il suffit, entre guillemets, de me remettre une pièce dans la machine, dans le jukebox, pour que la procédure reprenne 6 mois. À chaque pièce que vous mettez dans le jukebox, vous imaginez que pour des questions aussi délicates, ça peut quand même... peut y avoir ce qu'on appelle des manœuvres dilatoires qui viennent en effet de la défense, hein, donc du côté de Marine Le Pen, et qui font traîner la procédure. Ça peut être ça. Comme ça peut être tout à fait différent aussi. On peut imaginer que la Cour de cassation ait pour projet, en effet, d'avoir rendu un arrêt, quel qu'il soit d'ailleurs, parce que normalement après c'est un retour en appel, parce que la cassation ne fait que casser le jugement de l'appel, donc ça retourne dans une autre cour d'appel, mais ils peuvent aussi avoir prévu une autre stratégie, parce que là on est vraiment dans du calcul politique et pas du tout judiciaire.
Il y a eu un procès comme ça avec le parti de François Bayrou, mais il n'y a pas
le MoDem.
Le procureur a fait appel, donc l'affaire n'est pas terminée, ils ne sont pas allés en cassation. On ne sait pas, parce que tout le monde, vous avez remarqué que tout le monde part du principe que la cour que c'est juste une question de gagner du temps, que Marine Le Pen gagne du temps, et que la Cour de cassation va confirmer le jugement en appel, et qu'il n'y a pas de sujet. Hein, pour tous les journalistes et les spécialistes, c'est garanti que c'est une question de... c'est une affaire de gain de temps, et que voilà. Mais pourquoi ? Moi, je pense que le pourvoi est tout à fait fondé. Et alors, je ne sais pas si on peut faire confiance à la Cour de cassation, si elle est politisée, trop politisée, un peu politisée, je n'en sais rien. Mais en droit, le pourvoi est tout à fait fondé en droit. Ce n'est pas un pourvoi farfelu pour gagner du temps, du tout.
Parce que vous, on
si
en
la,
parlait...
Pardon, juste, ouais. Si la Cour de cassation jugeait en droit en mettant de côté les opinions politiques, c'est tout à fait fondé et même elle devrait gagner.
Parce qu'on en parlait hors antenne tout à l'heure, il y a en effet, dans toutes les réactions du monde politico-médiatique qui ont suivi cette décision de la Cour d'appel, il y a eu énormément de désinformation. C'est-à-dire que le fond de l'affaire est loin d'être aussi transparent et évidemment en défaveur de Marine Le Pen que ce que ses adversaires veulent le faire croire.
Absolument, parce que les médias, et encore pire, ses adversaires, présentent la chose. Alors les médias caricaturent un peu, vulgarisent, on va dire. Ils ne font pas exprès, on peut leur accorder ça, parce que c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans les... En fait, dans les médias, on essaie toujours de ne pas ennuyer le téléspectateur ou l'auditeur.
Et donc on simplifie à l'excès,
voilà. On dit, ah ouais, bon, elle a employé...
emploi fictif, détournement...
En général, ils sont plutôt honnêtes, ils disent qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, etc. Bon, très bien. Mais ils disent qu'en gros, elle avait des assistants parlementaires payés par le Parlement européen et qui faisaient un travail plutôt national, etc. Ça, c'est un peu aller vite. Ils oublient de préciser que ces assistants... Alors, ils disent, eux, les médias, que c'est pas légal parce que le Parlement a décidé que c'est pas légal. Oui, ben, ça, c'est pas le Parlement qui fait les lois européennes. C'est pas le Parlement européen. Ce qu'ils oublient de préciser, ces médias, c'est que ces assistants parlementaires n'étaient pas payés, parce que souvent on dit le RN est accusé d'avoir détourné des fonds.
Ou de l'argent.
Il a payé, ils n'arrêtent pas tous de dire, que ce soit les médias ou les adversaires politiques du RN, le FN de l'époque a payé des assistants parlementaires avec l'argent du Parlement européen. Ce qui est totalement faux. Ouais. C'est le Parlement européen qui est payé. L'argent n'a jamais transité par le parti. Le parti envoyait un contrat...
Oui, des déclarations, en
fait. Un contrat d'embauche pour un assistant parlementaire. Mm-hmm. Le Parlement le validait et payait directement l'assistant. Donc le Parlement payait... tous ces assistants, après, avant de poursuivre le RN, sachant parfaitement leur fonction, c'est ça ce qui est hallucinant dans l'affaire, c'est que ce que les Français ne savent pas, et peut-être moi, les auditeurs de Radio Courtoisie non plus, c'est que non seulement c'est le Parlement qui payait ses assistants, mais le Parlement savait parfaitement quelle était leur fonction, ouais. Puisque sur la fiche de paye, par exemple, on n'arrête pas de reprocher à Marine Le Pen d'avoir embauché son chauffeur comme assistant parlementaire. Or, sur sa fiche de paye, il y avait marqué chauffeur, vous voyez ? Donc, en fait, ça paraît bizarre que de poursuivre quelqu'un en ayant été complice de cette affaire. Parce que le Parlement européen qui se plaint contre le FN a été en quelque sorte son complice, que c'est lui qui payait. Bon, donc ça, d'une part. D'autre part, les adversaires...
Oui, alors, l'employeur était de bonne foi. Donc là,
C'est ce qu'elle plaide, d'ailleurs. Elle dit, je veux bien que ça soit pas légal... Mais je n'étais pas de mauvaise foi, je n'ai rien caché. Il
n'y
a pas eu de falsification, il n'y a pas eu de dissimulation. Vous savez qu'en droit français, en droit pénal, si vous commettez un délit, vous n'êtes pas condamné en tant que tel. Parce que la bonne foi plaide en votre faveur et vous n'avez pas.
C'est souvent une excuse qu'on appelle l'excuse de bonne foi.
Il est évident qu'elle était de bonne foi parce qu'elle n'a pas caché, la fonction de ses assistants n'a jamais été cachée. Bon. Après, il y a les adversaires. Alors là, les adversaires, alors eux, contrairement aux journalistes, eux, c'est pas pour gagner du temps. Eux, ils manient la mauvaise foi et le mensonge.
L'un des premiers à avoir réagi, on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans cette émission avec un invité qui aura beaucoup de choses à nous raconter sur son sujet, c'est Édouard Philippe.
Édouard Philippe, qui a reculé après. Hein.
Qui a un petit peu reculé, se rendant compte peut-être qu'il était allé trop vite, trop loin, trop fort.
Un de ses communicants a dû lui dire c'est pas bon ça, vous savez, parce que ces gens-là, dès qu'ils ouvrent la bouche, vous pouvez dire qu'un communicant... Leur perroquet.
2, 3, 10 derrière.
Ouais,
même
10 perroquets derrière qui leur disent quoi dire. Mmh. C'est pour dire où nous en sommes. Parce que les hommes politiques qui n'ont aucune opinion, ils répètent ce que leur perroquet, moi j'appelle les communicants des perroquets, qui connaissent rien à rien.
Et en fait, l'argumentaire d'Edouard, enfin l'argumentaire, les invectives d'Edouard Philippe sont exactement les mêmes que celles de Ruffin, par exemple, ou des autres membres de LFI.
Attal.
Ou de Attal, c'est-à-dire.
Ah, pardon, aussi de LR.
Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. C'est-à-dire, le RN présente un candidat délinquant condamné à l'élection présidentielle.
Délinquant,
valeurs de la République, etc.
Délinquant.
Et donc, alors bien évidemment, ça n'avait pas été, d'une part, amplement pratiqué dans les autres partis, et ça c'est vrai. Et là, le problème, c'est que, bien évidemment, la justice est tombée sur le RN parce que politiquement, pour l'institution judiciaire et le monde politico-médiatique de gauche, c'est la menace numéro un.
Juste un mot et on fait une pause pour le Bobino. C'est la menace numéro un, mais quand on a une menace, on essaye de la réduire un peu. Et là, c'est comme quelqu'un qui se noie et au lieu de se calmer un peu pour ne pas avaler de l'eau, il patauge et il en avale encore plus parce que franchement, ils n'ont pas la bonne méthode. Mais on va faire une pause, on va conclure.
Pour Bobino, à tout de suite.
On va conclure après sur ce sujet.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 seul euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris.
On reprend donc cette émission, on va conclure sur ce sujet, mais avant, juste 2-3 mots sur le fait, pourquoi c'est une mauvaise stratégie ? Parce que les Français ne sont pas des imbéciles. Ils voient bien que cette classe politique qui monte sur ses grands chevaux comme ça pour dire délinquants, voleurs, l'argent des Français et tout, savent parfaitement que le poste d'assistant parlementaire, l'enveloppe qui est dédiée à ces assistants, elle existe et elle revient aux députés à l'époque du Front National. Que l'assistant ait fait un travail à Paris au Parlement européen, cet argent devait être dépensé pour cela. Donc il n'y a pas eu, à cause du parti Front National de l'époque, une création de dépenses nouvelles. Donc en fait, contrairement à ce qu'ils disent ses adversaires, et les Français l'ont bien compris, il ne s'agit pas d'un, d'un détournement, d'une dépense. En fait, il ne s'agit pas d'un parti politique, en l'occurrence le FN, qui aurait créé des dépenses nouvelles pour le Parlement européen. En revanche, eux, ceux qui accusent Marine Le Pen de voler de je ne sais quoi, eux, ils créent tous les jours des dépenses, Pierre-Henri. Vous pouvez en citer quelques-unes,
non,
peut-être.
Non, mais c'est leur fonds de commerce.
Eux, pardon, eux, ils sont l'exécutif. C'est... Ils ne sont pas des députés. Parce que le député, il est... C'est le législatif, donc les dépenses ne sont pas faites par les députés, mais par celui qui gouverne, qui fait le budget. Donc le RN n'est pas au pouvoir. Donc lui ne peut pas créer de dépenses, sauf dans quelques mairies qu'il dirige. Mais en revanche, les maires et le gouvernement, eux, ils créent des dépenses. Et vous pouvez peut-être en citer quelques-unes.
Tous les jours, bah, bien évidemment, on peut parler de ce que l'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire les rénovations urbaines.
Par exemple, les maires.
Et ça, c'est au niveau des mairies, des conseils généraux et des conseils régionaux. Et ce sont des centaines de milliards d'euros depuis des décennies qui ont été déversés dans les quartiers dits sensibles. On en voit le résultat aujourd'hui, c'est de pire en pire. On a appris tout à l'heure qu'il y avait 5 blessés par balle à Clermont-Ferrand sur un point de deal.
Oui. Une fois de plus, hein, c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. 5 blessés par balle. Non, mais je veux dire, on est dans une banlieue de Los Angeles.
Oui. Oui.
Dans les mauvaises périodes de Los Angeles, d'ailleurs.
Et donc, les subventions ?
Les subventions aux associations, alors justement pro-migrants, aux associations de passeurs, ne serait-ce qu'SOS Racisme. C'est-à-dire depuis l'existence, enfin la création d'SOS Racisme, qui est une association qui ne défend qu'une certaine variété de personnes au détriment des autres. Tout ça, on le sait. Mais en fait, ce sont le fonds de commerce de la classe politique française, quelle qu'elle soit, et ça va jusqu'à LR, comme ça allait auparavant jusqu'à l'UMP et jusqu'au RPR, c'est le clientélisme. Et le clientélisme, d'une part, ça prend dans les poches des Français à perte, parce que ça ne fait rien pour la croissance économique du pays, ça ne fait rien pour la sécurité des personnes et des biens, qui est la mission première du régalien, de l'État régalien, normalement, en temps normal, et c'est du gaspillage, et ça se fait au détriment des Français. On ne peut quand même pas reprocher ça au FN d'alors et au RN d'aujourd'hui.
Et encore une fois, ils créent des dépenses tous les jours, totalement inutiles, vous en avez cité plusieurs, mais que dire encore des notes de frais, parce que tous ces gens qui accusent un tel, tous sont des énarques aux fonctionnaires. Donc ils touchent des salaires faramineux de l'État, souvent sans rien faire, ils sont au placard, et quand ils font quelque chose, ils font quoi ? Ces gens-là ne mettent jamais la main à la poche. Ils ont des voitures avec chauffeur, des notes de frais, alors ils vous augmentent le prix de l'essence, évidemment, ils ne payent jamais l'essence. Ça, parce que ça veut dire aller dans une station d'essence. Ils vous augmentent les prix de l'électricité, ils ne payent pas les... Ils ont tous des appartements de fonction, des voitures de fonction, ils vont au restaurant, ils ne payent rien, c'est la note de frais. Ils créent des dépenses tous les jours, ils viennent accuser les autres de dire « Ah, mais vous avez fait payer votre employé pour faire X et pas faire Y », enfin, c'est une plaisanterie.
Ce n'est pas de la démagogie facile que de dire que c'est l'équivalent des privilèges d'Ancien Régime.
Absolument.
À l'époque où l'Ancien Régime était déliquescent, voire en état de putréfaction, c'est-à-dire où les privilèges n'étaient absolument plus justifiés par des contreparties, comme ils l'ont été quand même pendant des siècles. D'une certaine manière, critiquable, discutable, etc., etc. Mais à un moment, quand il n'y a plus que les privilèges et pas du tout la contrepartie qui les fait mériter, ah, c'est une situation, en fait, de république bananière.
Exactement. Mais on va faire une émission sur ça, Pierre-Henri.
Et on va faire une émission
sur la tiers-mondisation de la France.
À en dire. On va peut-être passer à notre deuxième sujet. Sujet dont on a déjà beaucoup parlé.
Là aussi, on l'avait dit tous les deux, là, On avait dit tous les deux que l'accord entre les États-Unis et l'Iran, au mieux, durerait 5 ans. Au mieux. Il n'a pas duré 50 jours.
Non. Il n'a pas duré 50 jours, même si, en fait, d'un côté, vous avez certains membres de la République islamique d'Iran qui disent qu'il est toujours en vigueur.
Oui.
Chez les Américains, il y en a qui disent non, mais ça tient, tout à fait. Et de l'autre côté, bien évidemment, les Iraniens qui tirent des missiles sur des navires commerciaux, sur des bases militaires. Bien évidemment, de l'autre côté, les États-Unis qui répliquent. On ne sait plus où donner de la tech. En tout cas, du côté iranien, voilà, la première question qu'on peut se poser, c'est si Mojtaba Khamenei est toujours vraiment en vie.
En tout cas, on n'en sait rien, mais s'il est en vie...
En tout cas, en état de service.
Il ne décide de rien, ça on est sûr, ça on sait.
Qu'il soit
conscient, pas conscient, en vie, pas en vie, c'est pas lui qui dirige l'Iran. Et le problème, c'est là le problème. Le problème, c'est que...
Ce qui était quand même un peu le cas de Khamenei, qui avait une fonction un petit peu d'arbitre au sommet
mais c'est lui qui tranchait.
Voilà, sommet de la pyramide.
Oui,
il avait une fonction arbitrale.
Il tranchait.
Ce que son fils, vivant ou pas vivant, ou dans le coma,
non,
on ne sait pas, n'a pas.
Non, c'est fini parce que c'est un bateau sans capitaine. C'est ça la réalité.
Oui, avec plein de capitaines et plein de gouvernails.
C'est ce que j'allais dire. C'est qu'il n'y a pas de capitaine. Il y a beaucoup de lieutenants. Il n'y a plus de capitaine. Il y a beaucoup de lieutenants qui sont en concurrence entre eux. Il y a plusieurs clans, plusieurs... Alors, vous avez le chef des passes d'Aran. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, le président. Et puis, vous avez le président du Parlement, pour ne citer que quatre clans.
Et alors donc, à l'intérieur, il y a des subdivisions,
bien sûr.
Y a des trahisons.
Alors, le chef des passes d'Aran est le plus radical, a priori. Et puis lui, il a l'avantage d'avoir des gens armés sous ses ordres.
La force armée. Ouais.
Ce qui n'est pas le cas forcément de ministre des Affaires étrangères, etc. Donc en fait, c'est pas très compliqué à expliquer. Je ne sais plus quel observateur, pour une fois, parce qu'ils ne sont pas nombreux à connaître bien le sujet, avait dit il y a deux jours, et encore, lui n'est pas du tout pro-américain ni rien, et il a eu cette phrase tout à fait juste et objective. Et il a dit on ne peut pas faire des accords avec l'Iran. Et il n'est pas du tout anti-iranien. Hein. C'est quelqu'un d'origine kurde, d'ailleurs.
Parce qu'il n'y a pas d'Iran, en tant que
Il a dit, on ne peut plus faire un accord avec l'Iran parce que l'Iran n'a pas de chef. Donc, vous pouvez pas vous signer avec monsieur Intel, et il y a son concurrent qui ne respecte pas l'accord. En l'occurrence, là, il semblerait que les passes d'Aran, les gardiens de la Révolution, l'accord ne leur convient pas. Donc,
ils
le torpillent.
Ils essayent de le saboter.
Voilà, comme vous venez de le dire, Pierre-Henri, il y en a un qui dit non, le ministre des Affaires étrangères dit non, mais l'accord est toujours en vigueur, on négocie.
Les négociations continuent.
Et au même moment, les gardiens de la Révolution envoient des missiles sur des bateaux qui passent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le ministre. Donc en fait, il n'y a pas de chef en Iran.
Mais alors, ce qui est étonnant, et ça c'est peut-être quand même un petit peu moyen-oriental, c'est de voir que la diplomatie des pays qui sont visés par les frappes iraniennes, donc les Émirats, Oman... Le Qatar, le Koweït,
un peu la Jordanie,
avoir aussi une espèce de double langage, c'est-à-dire dire d'un côté les frappes c'est absolument intolérable, nous allons répliquer, on ne peut pas se fier à l'Iran, et de l'autre le même jour un autre porte-parole qui va dire non mais tout va bien, nous continuons notre médiation et les négociations sont en cours.
Alors ça c'est pas une question d'oriental,
dire byzantin ou ottoman,
même pas, c'est beaucoup plus basique, beaucoup plus terre à terre. En réalité, ce sont des pays qui n'ont pas d'armée, à part les Émirats. Les Émirats, c'est un peu... D'ailleurs, pardon de vous de corriger juste
avec
un petit
peu. Avec de moins en moins d'Émiratis dedans, d'ailleurs.
Oui, mais les Émirats sont les seuls à ne pas... alors, le Oman, alors eux, c'est le summum, parce qu'eux, ils n'arrêtent pas de caresser les Iraniens dans le sens du poil, de les recevoir. Il y a encore quelques jours, le ministre des Affaires étrangères iranien était à Oman, et hier, ils se sont pris des missiles sur la tête. Bon, et ils n'arrêtent pas de dire, comme vous venez de le dire, Oman... Bon, Oman, c'est un pays qui n'a pas d'armée. Donc, en fait, ils n'ont pas trop... C'est pas une question d'oriental, c'est qu'ils n'ont pas le choix, parce que...
Une question de rapport de force.
Oui, ouais. Ils n'ont pas le choix, et ils ont compris que les Américains ne les défendent pas vraiment. Ils n'arrêtent pas les missiles. Le Qatar, c'est encore pire. Le Koweït, n'en parlons pas. Le Koweït, c'est une colonie américaine maintenant.
Oui.
Bon. En revanche, les Émirats, qui ont une armée la plus puissante de la région et qui détestent les... D'ailleurs, c'est les seuls... Vous savez que tous ces pays que vous venez de citer ont envoyé... pas tous, mais enfin une grande... Le Qatar... Bon, l'Arabie Saoudite n'a pas été touchée, c'est pas par hasard. Ils ont été aux obsèques de Khamenei.
Oui,
bon.
Ils ont envoyé
Oman,
des émissaires.
L'Arabie Saoudite, voilà. Le Qatar aussi.
Oui.
Bon, le Qatar s'est pris quand même des missiles sur la tête. Mais les Émirats, ils n'ont pas été.
Oui.
Et ils ne s'excusent pas. Bon. Donc, mais les autres s'excusent parce que ce sont des pays très faibles, et puis personne... Et puis
qui n'insultent pas l'avenir, en fait.
Oui, vous savez, ce sont des gens qui n'ont qu'une seule arme, qui est leur chéquier. Voilà. Donc, ils se prennent des missiles, ils ont compris que les Américains n'arrêtent pas les missiles, et bien la seule façon d'arrêter les missiles, c'est de payer. Donc, ils essaient de dire « négocions, ça veut dire « combien tu veux, je te paye ». Voilà. Laisse-moi sortir mon gaz et aller frimer sur la Côte d'Azur et je te paie ce que tu veux. C'est un peu ça. Hein.
C'est quand même franchement ça.
Ouais. Ouais,
alors, l'autre élément intéressant, c'est la... Alors, les Américains diraient la hit list, c'est-à-dire la liste de cibles d'assassinats potentiels dont la République islamique d'Iran se serait vantée, en fait, en représailles l'assassinat de Khamenei. Et dedans... Alors, bien évidemment, il y a Donald Trump.
Alors, ils sont tous habillés en orange, comme des prisonniers, avec une cible sur la tête.
Ouais.
Donc, c'est assez violent. C'est un journal iranien. Évidemment, ça va de soi. J'allais dire, tous les journaux sont proches du pouvoir, sinon vous n'existez pas en Iran. Donc, ça veut dire, c'est un peu la voix officielle. Donc, vous voyez les photos, je ne sais pas si vous les avez vues, ils sont tous en orange avec une cible sur la tête, comme dans un club de tir. Hein.
Ouais.
Et donc, c'est quand même, c'est pas juste des menaces de mort. Hein. Donc, ils vous montrent effectivement.
Et on dit alors, Israël aurait averti.
Alors, il y a Netanyahou, Trump, voilà. Ça va de soi, mais il y a d'autres personnalités.
Israël aurait averti Trump qu'il était la cible d'un complot lors de son déplacement en Turquie, ce qui aurait conduit. Bon, ça, ça va aussi dans le sens d'Israël.
Ça, ouais, voilà.
Mais alors, il y a Macron.
Oui.
Et c'est quand même étonnant parce que Macron, il a pas fait grand chose contre Armel.
Il a été neutre. Il a dit, je suis pas concerné. Donc à ce micro,
il a appelé à la paix 150
fois. On s'est moqué de lui à ce micro à plusieurs reprises. On a dit tous les deux, Pierre-Henri, que dire je ne suis pas concerné, ça ne sert à rien parce que vous vous souvenez, on a eu des officiers tués par l'Iran. C'est-à-dire qu'on nous tue nos officiers, on attaque nos armées au Liban et en Irak.
Voilà. En Irak.
Et on ne peut pas dire on est neutre. Eh bien, lui a continué à dire il est neutre. Maintenant, il est leur cible. Alors, on le met sur une photo avec une croix sur la tête à buter. Et il continue à dire qu'il est neutre, très bien, mais moi, il me semble qu'avenue Iéna à Paris, il y a un immeuble avec un drapeau iranien, il s'agit de l'ambassade d'Iran.
Ouais, qui est toujours ouvert.
Non seulement il est ouvert, mais on n'a même pas pris la peine de convoquer l'ambassadeur pour lui dire, bon, vous voulez tuer notre président ?
Même pas de rompre les relations diplomatiques, mais au moins de convoquer l'ambassadeur.
Non, mais normalement, si on était un pays normal, l'ambassade serait fermée dans la minute qui suit. Bon, si on était un pays normal, mais bon.
Donc en fait, ça veut dire, et il nous reste quelques secondes, est-ce que ça voudrait dire qu'Emmanuel Macron pratique la même diplomatie que le Koweït ou qu'Oman ? Et pour les mêmes raisons.
Écoutez, on a déjà payé pour sortir des otages. Hein.
Alors ça fait 40 ans qu'on paye pour sortir des otages.
Ce qui n'est pas le cas d'autres. Hein. Je peux vous assurer que les Américains et les Russes ne payent rien.
Et on en parlera d'ailleurs dans une émission ultérieure où on va parler culture et cinéma. Oui. Et on parlera des JO de Munich en 72 et de la réaction d'Israël.
Voilà, donc un pays comme Israël, ou les États-Unis, ou même la Russie, ils ne payent pas pour sortir des otages. Hein. Et je peux vous assurer que les preneurs d'otages réfléchissent à deux fois avant d'en prendre de chez eux. Mais bon, on parlera de ça plus tard. Non, malheureusement, je crains que Monsieur Macron et ses complices et compères ne rabaissent la France à ce niveau-là, malheureusement.
Malheureusement. On arrive à la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain à 17h pour un nouveau numéro de Culture et Politique. Cher Richard, bonne semaine.
Merci,
et bonne semaine
à bientôt.
À tous.